dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14. On va faire un petit voyage sur le chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16 pour découvrir un personnage qui s'appelle Asa. Asa, vous connaissez un élément de sa famille, c'est son grand-père. C'est Roboam, celui qu'on a vu la semaine dernière. Donc Roboam, vous savez, c'est celui qui a parlé rudement, il a divisé le pays en deux. Il a eu un fils qui s'appelle Abijam. Bon, vous lirez ça dans le livre. C'est lui qui a fait la guerre avec Jéroboam. Il n'a pas régné longtemps. Et puis on va voir ce soir ce personnage, Asa. Une vie assez riche, assez remplie d'expériences, d'anecdotes. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails de sa vie. On va voir quelques points de son existence. Et puis essayer de tirer quelques enseignements pour nos vies actuelles. Deux Chroniques, chapitre 14. On va lire les 6 premiers versets et après on fera quelques lectures de versets dans la suite. Alors ça commence bien parce qu'il est écrit « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-nous de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. » Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. C'est quand même pas mal, hein. Rien que les 6 premières versets, on se dit, ah ça, c'est un homme qui a de quoi être satisfait de son existence. Le verset premier nous dit que Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il y a de nombreux ou plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez vérifier. Éphésiens chapitre 6, Colossiens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et vous lirez que dans ces chapitres-là, la parole de Dieu nous encourage à vivre notre existence. Non pas selon le regard des hommes, mais à bien nous comporter, à bien nous conduire, avec sincérité, avec droiture, avec crainte, avec empressement. Non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. La religion chrétienne n'est pas une religion de devoir, mais c'est une religion de bonne conscience. La Bible nous invite à vivre, non pas avec le regard d'un devoir religieux, mais à vivre selon une bonne conscience devant Dieu. À prendre conscience que partout où nous sommes, à chaque instant, ce n'est pas le regard des hommes qui doit nous importer, mais c'est le regard de Dieu. Dans nos actes, il a fait ce qui est bien, mais également dans notre cœur, car il a fait ce qui est droit. Et on peut faire tant de bonnes œuvres, mais le cœur n'est pas droit. On peut faire des choses qui, aux yeux des hommes, paraissent très bien, très louables. Et le regard de Dieu qui, lui, va nous scanner de l'intérieur, peut y distinguer un cœur un peu plus tortueux et beaucoup moins louable que ce que le regard des hommes veux avoir comme avis. Nous devons faire attention. La vie chrétienne n'est pas une vie de religion, une vie de devoir, une vie de commandement. Mais c'est une vie d'obéissance et de conscience. Et Adam donne cet exemple d'homme qui fit ce qui est droit et bien aux yeux de l'Éternel. Sa vie à lui, en tout cas pour le début de sa vie, a été premièrement de bien se comporter, de bien vivre selon le regard de Dieu. Et parmi les bonnes choses que Asa a fait, il nous est dit au verset 2 qu'il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Alors on a vu mercredi que ce qu'on appelait les autels et les hauts lieux, c'était des lieux que les gens bâtissaient pour adorer des dieux étrangers. Et on sait que la Bible nous explique que derrière ces dieux étrangers, ce sont même des idoles et des démons. Dieu condamne l'idolâtrie. Dieu condamne les statues, Dieu condamne les images. Je crois que la plupart d'entre nous ici, nous sommes bien au clair là-dessus. Mais trop d'hommes, trop de femmes se laissent encore séduire par des images, par une sorte de superstition. Et la leçon que nous devons là prendre, c'est que dans nos vies, nous devons faire du nettoyage. On ne peut pas vivre et chercher la face de Dieu, se dire qu'on va vivre une vie qui est agréable à Dieu, sans faire le nettoyage dans nos vies de tout ce que Dieu lui-même condamne. Alors bien sûr, il y a les statuettes, il y a les images, il y a les pendentifs, il y a toutes les amulettes religieuses, mais il y a le même attirail dans les choses occultes. Les pendules, les cartes, les gris-gris. Je me souviens de cette femme qui venait aux réunions, et chaque fois qu'elle venait aux réunions, on priait pour elle. Ah, ça va mieux, ça me fait du bien, oh, merci, c'est formidable. Et trois jours après, elle revient. Oh, ça va pas, ça va pas. Oh. C'est incroyable, on priait pour elle à chaque fois. Oh, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Enfin bref, au bout de cinq fois, on dit, bon, il y a un truc qui va pas, on peut venir chez vous. Ah, oh, bah oui, venez. Et la dame, chaque fois quand on est allé chez elle, oh, alors elle gardait un peu de sel ici, un peu de sauge naturel là, une sorte de pendentif point de bonheur ici, et puis sous la table, il y avait ça, et puis quand on est accueilli, elle avait un bandeau sur la tête dans lequel elle avait mis encore des... Oh. À force de garder plein de cochonneries spirituelles, on se pollue. Et la parole de Dieu nous invite, et parmi les bonnes choses que Asa a fait, les choses droites et les choses bonnes, il faut faire du nettoyage dans notre vie. Il faut changer nos mauvaises habitudes. Ça aussi, ça fait partie des choses dont il faut accepter le scanner du regard de Dieu. Les mauvaises habitudes, les mauvais caractères, les mauvaises réactions, peut-être même les mauvaises relations. Il faut faire du nettoyage. On peut même aller un peu plus loin, on ne l'a pas lu ensemble, mais au chapitre 15 et au verset 16, Asa a fait quelque chose de très courageux. Donc chapitre 15, verset 16, il est écrit que le roi Asa enleva même à Maaca, c'est sa grand-mère, sa mère, mais en fait c'est sa grand-mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Sidon. Asa a fait quelque chose de très courageux. Il ne s'est pas contenté de faire du nettoyage et de supprimer les objets qui ont fait chuter le peuple d'Israël. Mais il a même destitué les responsables, les auteurs, ceux qui donnaient de la force, du crédit à ceux qui pratiquaient de l'idolâtrie. Et bien souvent dans le monde, sur qui on tape? Sur les petits? Sur les petits? On va taper celui qui n'a pas payé ses impôts? On va taper sur celui qui n'a pas payé ses 3000 euros? On va taper sur celui qui a fait un petit test? Mais les grands là, ceux qui font la fuite fiscale, ça on dit rien. Ça, on négocie même les choses pour que là, ce soit complètement opaque. Asa a eu le courage, non pas de taper sur le petit et de faire du nettoyage superficiel. Il a osé aller à l'origine, donner, à retirer vraiment même l'autorité de ceux qui avaient du crédit dans ces choses-là. Et nous devons non pas seulement faire un nettoyage superficiel, se contenter d'un vernis, nous devons arracher le mal à la racine, comme dans les vignes. C'est dur, c'est plus fin de couper. Mais tant qu'on n'a pas retiré le mal à la racine, le mal revient. Et nous devons, dans nos vies, faire du nettoyage. N'est pas un nettoyage superficiel. Avoir même le courage d'aller au fond des choses. Et pour Asa, ce n'est pas évident. Vous imaginez, il est allé voir sa grand-mère, qui était reine. Et qui dit, toi qui es reine, tu n'es pas digne de ce titre-là. Parce que tu fais chuter le peuple d'Israël. Et il a destitué sa grand-mère de ce rôle. Quel courage pour, non pas la glorification des hommes, mais parce que cet homme marchait sous le regard de Dieu. Le regard de Dieu lui paraissait être plus important que le regard des hommes, et même de sa propre famille. Au verset 3, il nous est dit que Asa ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Qu'est-ce que signifie chercher l'Éternel ? Il y a un verset qui est assez étonnant dans le Nouveau Testament, qui dit que Dieu veut qu'on cherche l'Éternel en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. C'est quand même étonnant comme expression. Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. C'est vrai qu'il y a quelque chose de surprenant de la part de Dieu, c'est que d'un côté, il veut se laisser trouver. Et d'un autre côté, on sent que ce n'est pas si simple, honnêtement. Pourtant, on encourage les gens à dire « Et cherchez l'Éternel, vous verrez, c'est tellement simple !» Et c'est vrai, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, ça paraît tellement simple. Chercher l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chercher sa volonté. C'est mettre sa confiance en lui. C'est s'attendre à lui. Chercher l'Éternel, c'est à la fois avoir une manière de faire, mais c'est surtout une disposition de cœur. Et c'est pour ça qu'il y a comme une sorte un peu de dualité dans cette expression. Quand on dit « Ah, à la fois c'est simple, et puis d'un autre côté, c'est peut-être pas toujours donné à tous. » Bien sûr que c'est donné à tous. Parce que la pratique est simple, il suffit d'écouter la parole de Dieu, il suffit de prier, il chercher, il suffit d'être attentif, mais il y a une disposition de cœur où il faut se laisser toucher, où il faut que Dieu devienne une priorité, non pas la deuxième, troisième ou quatrième roue du carrosse, comme on dit, mais le conducteur, le chef. Et ça, bien souvent, dans notre manière de penser, on fonctionne complètement autrement. On cherche, on essaye de trouver des solutions par nous-mêmes, on raisonne, on construit, on se base sur nos émotions, sur nos ressentis. Et après, si vraiment on n'a pas trouvé, alors on se remet en cause. Mais avec la parole de Dieu, pour chercher l'Éternel, c'est complètement l'inverse. C'est lui le premier. C'est son avis qui importe. C'est son émotion, c'est son sentiment, c'est sa volonté qu'on cherche. C'est ses commandements, c'est ses lois, c'est ça qui importe en premier. Et quand on commence à raisonner comme ça, où Dieu est le premier et nous en deuxième, et nos sentiments en troisième, et ce que l'on considère en tout dernier, alors effectivement, ça nous paraît soudainement très simple de rencontrer le Dieu, de chercher, de trouver l'Éternel, parce que notre cœur est plus disposé. Asa a été un roi qui a encouragé son peuple à chercher l'Éternel. On pourrait se dire, mais que de manière individuelle, on cherche l'Éternel, pourquoi pas? Mais comment est-ce que ce roi a obligé, à encourager tout le peuple à chercher l'Éternel? Je me suis imaginé Asa en homme politique en 2015, cherchant à être représentant de tête de liste dans son parti. Alors quand on les écoute, là, nos hommes politiques, est-ce qu'ils vous invitent à chercher l'Éternel? Faites-moi confiance! Moi j'ai des idées, moi je suis pas comme les autres. Hein. Oh, lui là, mais moi c'est pas pareil. Faites-moi confiance, moi j'ai de l'expérience. Oh, regardez le bon cœur que j'ai. Oh, bah, et moi, faites-moi confiance. Voilà l'homme politique, il se vend. Et comme il n'a pas grand-chose à vendre, il dit surtout que les autres sont nuls, donc il reste plus que moi. Et Asa, en 2015, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Je fais de confiance à l'Éternel ! Louez-le, priez-le ! Mon frère, madame, t'as un problème ! Prie le Seigneur ! Incroyable comme argument politique, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il ordonna à Judas de chercher. Chercher l'Éternel ! T'as un problème ! Vous les paysans, vous avez un problème ! Eh bien, priez le Dieu du ciel, il va vous envoyer la pluie ! Mais c'est pas un argument politique, qui va voter pour lui aujourd'hui ? Et pourtant, c'est exactement ce qu'Asa a fait. Il a encouragé le peuple de Dieu. Non pas à se réfugier dans leur force, non pas à se réfugier dans leur portefeuille, non point à se... à prendre appui sur leurs armes ou sur leur capacité. Mais il a encouragé le peuple à adopter une autre logique, celui de faire confiance à Dieu. D'ailleurs, c'est toute la Bible qui nous y invite. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien !» Ah ben ça, c'est facile à dire. D'accord. Mais c'est ça la logique divine. « Ne vous inquiétez de rien !» Mais oui, tu te trompes pas. « Ne vous inquiétez de rien !» disait Asa son peuple. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quel programme politique incroyable! C'était le programme politique d'Asa. Il a encouragé, il a poussé, il a stimulé son peuple. Il a ordonné à Judas de rechercher l'Éternel. Et puis la suite de Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Apprenons également au travers d'Asa cette folie de la foi en Dieu. Cette folie de croire que Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. Oui, mais attends, avec ce que je te demande, selon la richesse de notre roi. Mais est-ce que c'est vraiment possible que Dieu puisse s'occuper de... Mais oui ! Quelle que soit notre situation, et ça c'est la philosophie que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de rechercher l'Éternel, de le mettre en premier. Ou alors posez-vous la question comme ça, qui est votre premier conseiller ? De qui attendez-vous le secours ? En qui vous confiez-vous ? S'il y a toutes ces questions, la première réaction jaillissante de votre cœur, c'est le Seigneur. Alors vous êtes en train de chercher le Seigneur. Et si, en réalité, vous cherchez conseil surtout auprès du médecin, du psychologue, de mon mari, des amis, du pasteur, alors vous êtes sur une mauvaise voie. Si vous attendez à un secours, à une assistance de la CAF, du voisin d'en dessous, de mon cousin, alors vous êtes sur une mauvaise voie. Vous devez et nous devons nous attendre en premier appui au Seigneur lui-même. Amen. Et le résultat fut payant, hein ? On l'a lu tout à l'heure. Il nous est parlé de repos, il nous est parlé de paix. D'ailleurs, c'est résumé, nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, et nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. De tous côtés. Et le texte insiste bien sur le fait que le peuple ait recherché l'Éternel, et que le peuple ait connu un repos qui venait du ciel. J'aime ce verset qui nous dit que le salut vient du ciel. Le repos vient du ciel, la solution vient du ciel, l'aide vient du ciel, l'assistance vient du ciel. C'est Jésus lui-même qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vos âmes trouveront du repos. » Le monde fonctionne complètement à l'inverse. Le monde cherche du plaisir, le monde cherche du confort, le monde cherche de la satisfaction, le monde cherche à être bien dans sa peau. En mettant Dieu S'il y en a un à la fin de la liste, et pourtant ils sont pas en paix, ils sont pas en repos, ils sont pleins d'inquiétudes, pleins de soucis. Ils sont prêts même à mettre encore plus d'argent pour essayer d'avoir un peu plus de repos. J'ai vu hier une... C'est des extraits d'émission et on voyait un journaliste qui interviewait un monsieur. Alors on distinguait que la personne qui l'interviewait devait habiter, je sais pas, sur... Comprenez ce que je veux dire, sur une île paradisiaque, vous savez, rien qu'à la télé, on voyait le sable blanc, la belle mer, les cocotiers, et on voyait que le monsieur, bah lui, ça faisait depuis toujours qu'il habitait là, quoi. Et le journaliste disait, et vous, il paraît qu'on vous a proposé 8 millions de dollars pour acheter votre terrain. C'est vrai? Il dit oui. Et le monsieur, il dit, mais oui, 8 millions de vrais dollars, hein. Il dit, et vous ne l'avez pas vendu? Il dit, non, je préfère ma tranquillité ici. Et le riz, mais vous rendez compte, 8 millions de dollars? Il dit, alors, moi je suis là jusqu'à ma mort, après ils feront ce qu'ils voudront. Donc les gens, même ceux qui ont des millions, pour qui on pourrait dire, oh, ben, ils ont la vie tranquille, ils ont encore besoin de dépenser encore beaucoup plus pour essayer de s'acheter un petit bout de terre sur lequel ils pourraient se dire, ah là je serai enfin tranquille. Mais folie de folie, parce que le repos nous vient du ciel. La vraie paix nous vient du ciel. Romains chapitre 14 verset 17 nous dit que le royaume de Dieu, l'atmosphère du ciel, la présence de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de millions de dollars ou d'euros vous pourriez mettre sur votre compte en banque, mais jamais ça ne s'achètera à prix d'argent. Cette paix, cette justice, ce repos, cette joie, tout le monde la veut. Honnêtement, tout le monde la veut. Tout être humain aspire à ça. Et pour la vivre, il faut faire comme Asa a fait. Il faut chercher l'Éternel. Il faut vivre avec la conscience que nous vivons sous le regard de Dieu. Il faut obéir à ses commandements. Il faut chercher sa volonté. Et quand on vit comme ça sur cette terre, alors il y a l'approbation de Dieu qui se met dans notre cœur. Et il y a le repos, il y a la paix, il y a la sérénité. Reconnaissons que toutes les fois que nos cœurs est agité, reconnaissons que toutes les fois que notre cœur est irrité, reconnaissons que toutes les fois que nos cœurs est instable, qui n'est pas rempli, baigné de cette atmosphère-là, c'est que notre esprit est bien loin des préoccupations du ciel. On se soucie des choses d'ici-bas, on se prend la tête pour des pacotilles terrestres, on est en train de focaliser nos attentions sur autre chose que sur le Seigneur lui-même. Mais quand tout notre être, quand nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, que notre priorité est bien le Seigneur, et pas la deuxième ou troisième place, mais bien à la première place. Alors même s'il y a des embrouilles, des soucis, des contrariétés, on n'est pas non plus insensible. Mais la paix de Dieu revient, la force de notre Seigneur reconquit notre cœur. Que toute notre vie soit toujours priorisée par les bonnes choses. Vous lirez à la maison, hein, mais vous verrez même que dans ce chapitre, Asa fait une super expérience. Un jour, il y a le chef des Éthiopiens qui décide d'attaquer. Et il vient avec 1 million d'hommes. 1 million d'hommes. Pas mal quand même. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Et là, il y a quelqu'un qui toque derrière. Il dit, oh, en fait, hein, je suis venu pour te massacrer avec mes 1 million de bonhommes. Oh! Alors lui, il fait le décompte. Et combien? Bah nous, on est 300 000. 300 000 d'un côté. 1 million de l'autre. Je vais pas faire les lignes comparaison avec les équipes de foot, j'y connais rien. Mais imaginez, hein, 300 000, 1 million. C'est l'équipe d'Anceny en foot contre... quoi? Contre Monaco? PSG? Qui va gagner? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire le match? Eh ben, lisez l'histoire. Il y a un verset qui est beau. Il est écrit, je crois que c'est verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. et il dit : Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Alléluia! Il a invoqué son Dieu. Il a crié après lui. Seigneur, tu vois comme je suis faible, tu vois comme on est impuissant. Et nombre de fois où dans nos propres vies, nous pouvons être dans des situations où nous nous sentons faibles, incapables, impuissants. Sur le papier, c'est sûr, on est moins que rien. La situation est faite que de toute façon, humainement, on est foutu. Alors au lieu de se lamenter, il a invoqué. Il n'a pas cherché à faire alliance avec les pays étrangers. Il a invoqué son Dieu. Il dit oui, c'est vrai, on est faible. C'est vrai. Mais Seigneur, c'est sur toi que nous appuyons. Alors on y va, Seigneur. Mais on compte sur toi. Et la finalité, c'est que un avec Dieu est une majorité devant une multitude. Amen. Mais c'est l'expérience qu'a pu vivre Asa. Alors on pourrait se dire, c'est super la vie d'Asa. Oui, mais Asa c'est un homme. Et dans la vie des hommes, même les plus extraordinaires, il y a souvent des petits mots. Je vérifie, de 4 lettres. M-A-I-S. Ça fait quoi ça?
Mais.
Mais. Mais quoi? Alors on va le lire. C'est au chapitre 15 et au verset 17. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quoique le cœur d'Asa ait été entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Mais comment est-ce que c'est possible ça? Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa soit tout entier à l'Éternel. Non. Pourtant, on a lu qu'il avait tout fait pour faire le nettoyage. Il a même viré de l'autorité du pays sa propre grand-mère. Ça devait être elle qui devait donner les bons d'accord de construction, les permis de construire. Ouais, c'est bon, on va starter, c'est bon. Il a viré tout ça, et pourtant, dans le peuple d'Israël, il persistait encore des hauts lieux. Je dirais que c'est un peu l'image de notre cœur. Nous devons faire le nettoyage. Mais le nettoyage ne fait pas tout. Nous devons faire le nettoyage. Nous devons chercher la face de Dieu. Et pourtant, vous apercevrez que malgré ce nettoyage et malgré notre bonne volonté à vouloir plaire à Dieu, il y aura encore des choses qui vont nous surprendre dans nos propres existences. Des mauvaises pensées. Des situations où on se surprend nous-mêmes de notre nullité. Des réactions, des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des situations où même on se dit « Ah, c'est bon là, c'est réglé !» Et puis on dit « Oh, mais comment ça se fait que ça revient ?» Nous ne devons jamais oublier que même si nous avons fait le nettoyage et même si nous demandons au Seigneur de venir habiter dans notre cœur et que notre cœur est tout entier au Seigneur, nous gardons une nature pécheresse. Nous restons par nature mauvais. C'est en nous. On est fabriqué comme ça. Alors Dieu a fait une œuvre de régénération, mais la régénération n'est pas une œuvre acquise une fois pour toutes. Il y aura toujours à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. C'est un peu l'image d'une terre. Si vous achetez un terrain vierge, il y a de fortes chances que sur ce terrain, Il y a tout qui est poussé, des arbres, des ronces, des pâquerettes, des pissenlits, il y a du foin qui... Et si vous avez un projet sur ce terrain, bah, vous allez commencer à faire un débroussaillage, vous allez couper tout ce qui est mauvais, vous allez tout, vous allez arracher, vous allez faire du nettoyage, et à force de transpiration, et vous allez voir que vous allez réussir à faire de ce terrain quelque chose de bien. Peut-être que vous allez aplanir les bosses, remplir les creux. Et puis vous allez commencer à mettre la bonne semence, les bons arbres. Mais si vous ne veillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez? Les mauvaises herbes vont revenir. Et la bonne semence ou les bons arbres que vous aurez mis, si vous ne prenez pas soin d'eux, eh bien ils vont se laisser envahir par les mauvaises herbes. C'est exactement la même chose pour notre cœur. Azav est tout fait pour que ces hauts lieux ne reviennent pas. Mais c'est comme du chien, non? Ça a tendance à revenir, malgré que son cœur soit tout entier au Seigneur. Vous verrez et nous verrons ensemble que cette réalité a toujours impacté Israël. Régulièrement, de bons rois ont essayé de liquider cette peste spirituelle et ça revenait. C'est comme une constance. C'est un peu comme chez nous, hein. C'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon église » et il l'a bâti, n'est-ce pas? Ce soir, la plupart d'entre nous avons eu la chance de rencontrer le Seigneur, il a changé nos vies, on fait des expériences avec lui, et il nous soutient. Il est notre meilleur ami, notre conseiller, notre force, notre allégresse, notre joie. On fait partie de l'église et pourtant, l'église n'est pas parfaite. Elle est pleine d'imperfections même. Ben, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi depuis que j'y suis. Mais en fait, chaque fois que quelqu'un, un être humain s'attache à l'église, ça la rend un peu plus imparfaite. Avec beaucoup d'autres richesses, mais beaucoup de richesses et quelques imperfections. Et Israël, c'est comme l'église, ou l'église, c'est comme Israël. Même s'il y a des cœurs bien disposés, il faut reconnaître aussi qu'il y aura toujours encore quelques idolâtries, quelques inconstances, quelques misères au milieu de nous. Il n'est pas question de tout jeter, regardez. Dieu a béni, n'est-ce pas? Il a accordé sa bénédiction au peuple. Mais il faut que nous veillions toujours à faire régulièrement du nettoyage, à être vigilants. Et que ce n'est pas forcément une question d'hypocrisie ou de mauvais état de cœur. C'est une réalité. Et nous devons veiller à entretenir le champ de Dieu. La dernière chose que nous pourrions voir de l'histoire de Asa, on va la survoler, parce que l'histoire n'est vraiment pas très drôle. Je vous laisserai le lire à la maison, c'est le chapitre 16. Mais on peut lire par exemple le verset 9. C'est un prophète qui parle à Asa. Et le prophète dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Amen, et ça c'est une réalité. Le Seigneur soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et puis il continue. « Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Je vous laisse lire pourquoi le prophète lui parle ainsi. Et lisons ensemble le verset 10. « Asa fut irrité contre le voyant, contre le prophète. » Et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. C'est incroyable. Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Amen. Ça, c'est incroyable. Ça nous fait penser à Salomon. Un homme qui a reçu une sagesse pas croyable, un homme qui a écrit des centaines de proverbes qui mettaient en garde contre les femmes, contre l'idolâtrie, et à la fin de sa vie, pouf, c'est comme si tout ce qu'il avait écrit, il avait complètement oublié et absolument pas mis en pratique. Et Asa, un homme qui, depuis le début, est un homme qui a vécu avec le souci du regard de Dieu, un homme qui s'est appuyé sur l'Éternel dans les moments les plus difficiles, un homme qui a eu le courage même d'affronter sa famille et la reine pour la gloire de Dieu. Et puis voilà qu'un jour il s'appuie sur les hommes, le prophète va le dire, dit, oh là, ça, là tu dérailles, c'est pas bon ce que tu as fait. Pourtant le Seigneur est celui qui veut t'accompagner. Et ce jour-là, il est piqué au vif, touché dans son orgueil. Et voilà qu'il commence à maltraiter l'homme de Dieu. C'est incroyable. Le sous-entendu de la phrase que nous avons lue là-haut, au verset 12, révèle encore la bonté de Dieu. Asa, pardonnez-moi l'expression, pète les plombs. Il se comporte comme un fou, comme un insensé. Il durcit son cœur. Et au lieu de le juger tout de suite, le Seigneur va susciter, et c'est le sous-entendu de la phrase, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. On comprend que cette douleur, que cette souffrance, Dieu l'a permise afin de le ramener à la raison. Dis, oh Asa, oh, rien de tes pieds là, tu veux rien faire là avec tes pieds. Et au lieu d'invoquer l'Éternel, voilà que ce hasard s'est réfugié chez les médecins. Quelle consternation! Parce qu'on comprend à la lecture de ce texte là que même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. On réalise que s'il s'était appuyé sur l'Éternel, le Seigneur l'aurait même guéri. On le comprend. On comprend qu'il y a une intention derrière cette maladie. Amis, ne soyons pas aussi orgueilleux que Asa, ne durcissons pas notre cœur autant que lui. Et n'attendons pas que le Seigneur nous fasse mal pour apprendre à chercher la face de Dieu. Quel dommage de toujours devoir aller au fond du puits pour réaliser qu'on ne peut pas aller plus bas et dans ces moments-là de crier au Seigneur. Quel dommage de devoir se prendre des murs violemment pour réaliser qu'il faut peut-être s'arrêter. Quel dommage que les circonstances de la vie nous amènent à nous blesser, à nous faire mal, à souffrir intérieurement, à ne pas avoir la paix, à ne pas avoir la joie, à gâcher du temps, à gâcher de l'énergie, à perdre de l'argent, pour finalement se dire, oh, à quoi ça sert tout ça? N'attendons pas de souffrir pour invoquer le Seigneur, mais profitons du temps que nous avons pour réformer nos voies, pour chercher la face de Dieu, parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est le Seigneur qui l'a pour nous. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que Dieu agit. Tout n'est que grâce. Tous nos besoins, Dieu nous invite à les lui présenter, à des prières, des supplications, et avec des actions de grâce, parce que nous avons un Dieu qui veut répondre. Alors que ce soir encore, nous fassions de l'Éternel notre priorité. Que nous sachions balayer, faire du ménage dans notre vie, et remettre le Seigneur devant. Être le conducteur du véhicule de notre vie, et nous saurons qui nous amènera à la meilleure destination. Amen.